Vous écoutez Cinécast, le podcast cinéma présenté par Guillaume Herings et Thibaut Van der Werf. Au programme, l'actualité du grand écran et les nouveaux films à l'affiche cette semaine en Belgique. Bref, votre condensé d'infos ciné à ne pas manquer. C'est parti. Bonjour à tous, vous écoutez Cinécast saison 2 épisode 3, je suis en compagnie de Thibaut Van der Werf. Salut Thibaut.
Salut Guillaume.
Alors aujourd'hui on a un programme assez éclectique comme d'habitude, hein, puisqu'on a des films à la fois français, des films aussi américains, en fait c'est surtout ça, une dualité assez certaine.
On va parler de deux films français et deux films américains.
Exactement, alors c'est des films français pour, j'allais dire que c'est tous les deux des comédies, c'est totalement faux. On a une comédie, est-ce une comédie, c'est ça la question. I Feel Good avec Jean Dujardin et Yolande Moreau, c'est un film de Benoît Delépine, qui était normalement le réalisateur derrière Saint-Amour et Mammouth, je pense, de film... souvent dans un contexte social assez particulier.
Oui, mais il n'est pas tout seul.
Il est
toujours avec Gustave Kervern.
C'est le scénariste à la base ou c'est...
C'est plutôt Delépine, le scénariste.
D'accord.
Mais il réalise à deux.
C'est un duo. Ensuite, on a un film de Peter Berg avec Mark Wahlberg. Là aussi, on peut dire que c'est un duo. Ils font pas mal de films ensemble quand même, ces deux-là.
C'est la Mark Wahlbergie de la semaine.
Ils s'aiment bien.
Et c'est un bon duo, oui.
Et la raison certaine, c'est parce que c'est souvent des films un peu d'action. C'est presque du Michael Bayisme.
C'est ça.
Presque. En tout cas, c'est très patriotique en général. Ça s'appelle Mile 22. On va voir de quoi ça parle après. Et le troisième film, c'est Un peu et son roi. Là, on retourne au cinéma français. Un film très, 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 très ambitieux, puisque c'est quand même gros budget pour raconter la fin. La fin de Louis XVI, la Révolution française, qu'est-ce qu'on va faire de ce roi, qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'il a signé cette constitution, c'est notamment la question qu'on se pose dans ce film, film que la France regarde avec grande impatience puisqu'il était à Venise notamment, tu l'avais vu là-bas, et il y a beaucoup de bouche à oreille autour de ce film, positif, négatif, on va en parler. Et le dernier film de la semaine, et pas des moindres, mes amis, c'est L'ombre d'Emily, un film américain avec un synopsis qui tient sur une phrase. Attention, je vais vous le lire parce qu'il est très intéressant. Stéphanie cherche à découvrir la vérité sur la soudaine disparition de sa meilleure amie Emily. Voilà, achetez un ticket de cinéma, vous avez tout compris, vous avez envie de voir ce film parce que il y a Anna Kendrick et Blake Lively.
Ah, Blake.
Voilà, au poster, donc il y a déjà pas mal de gens qui sont prêts à mettre 10 euros rien que pour ça. N'est-ce pas Thibaut ?
Déjà qu'il y a des personnes qui se sont tapées cette saison de Gossip Girl rien que pour elle.
Voilà.
Je ne citerai pas de nom.
C'est ce que
je Donc je pense qu'elle a... Elle a un public.
Elle a des atouts. Oui, pardon, excusez-moi, c'est pas ça que je voulais dire. Je rigole. Le premier film de la semaine, parce que oui, on plonge directement dans le premier film de la semaine pour une raison très simple, on n'a pas encore les chiffres du box-office. Ils arrivent un peu tardivement cette fois-ci, on est vraiment désolé.
Plutôt que d'habitude aussi.
Oui, c'est surtout ça en fait. Ah. c'est nous qui sommes un peu en avance. Par contre, oui, j'allais le dire avant qu'on entame I Feel Good, on va forcément à chaque fois parler des news, mais on va aussi faire une petite page spéciale pour le FIF, le Festival International du Film Francophone qui se déroule à Namur. Il se déroule du 28 septembre, donc c'est-à-dire vendredi, jusqu'au 5 octobre, et on va y aller, notamment, en tout cas plusieurs jours, Thibaut et moi, et on va un peu voir des films, éventuellement rencontrer une autre personne pour vous enregistrer un petit podcast spécial sur place, en tout cas, avec nos amis, ça c'est sûr, mais avec éventuellement quelqu'un si possible.
On a quelques noms qui circulent.
On fait travailler les relations alors de plus haut niveau, s'il vous plaît bien. I Feel Good. Premier film de la semaine, un film où Jean Dujardin peut sortir des phrases comme il aime bien les sortir, des phrases qui pètent un peu avec de l'humour cinglant, c'est-à-dire notamment une phrase que j'avais vue dans la bande-annonce qui m'a fait rire, c'est pas en écoutant Karl Marx qu'on va s'acheter un jacuzzi. Ce genre de phrase un peu saignante que Jean Dujardin aime beaucoup, que son personnage de Hubert Bonisseur de la Batte aime bien sortir par exemple dans OSS 117. Il y a un peu de ça. Ici, c'est l'histoire, en fait, hein, comme souvent avec ce duo de réalisateurs. Hein, donc c'est Monique qui dirige une communauté Emmaüs près de Pau. Monique, c'est un personnage interprété par Yolande Moreau. Et après plusieurs années d'absence, elle voit débarquer son frère, Jacques, interprété par Jean Dujardin, qui est un peu raté, on peut dire ça comme ça, qui a une seule obsession, c'est devenir le prochain Bill Gates, ou en tout cas se faire plein de thunes, en utilisant les principes du capitalisme, c'est-à-dire faire bosser les autres. Hein, c'est un peu ça l'idée derrière la tête de ce personnage-là. et donc... Forcément, vous avez compris le principe du film, c'est deux visions du monde qui se clashent. Est-ce que du coup, elle va arriver à attendrir son frère ou est-ce que lui va arriver à lui faire comprendre qu'on ne va pas gagner beaucoup d'argent avec une communauté Emmaüs ? C'est la question du film. Je ne l'ai pas vu, autant dire tout de suite. Mais qu'est-ce que tu en as pensé, Thibaut ? Est-ce que c'est dans la continuité de la filmo des deux réalisateurs ?
C'est complètement dans la continuité de la filmo de Delépine et Carverne. T'as plutôt bien résumé le film.
Je trouve.
Je trouve que tu l'as bien expliqué.
C'est pas mal. Hein.
Ça présente plutôt bien les choses. En fait, c'est quelque chose de particulier quand même, parce que forcément, t'as deux univers qui n'ont rien à voir, qui vont se rencontrer, qui vont entrer en collision. Et c'est mené par des personnages, à nouveau, qui sont particuliers, qui sont un peu marginaux, comme souvent chez Carverne et Delépine. Et le personnage de Jacques, qui est donc joué par Jean Dujardin, ce gars, il est complètement à la masse. Il a 10 000 idées de...
Des idées foireuses, un peu, on peut le dire. Hein.
C'est ça, très foireuses. Il a beaucoup d'idées pour devenir riche.
Donne-moi un exemple d'idée un peu débile qu'il pourrait avoir.
Son problème, c'est que les bonnes idées qu'il a, quelqu'un l'a déjà eu avant, en fait, en général.
Ah, ok. Genre inventer un annuaire sur Internet, par exemple, ce genre de choses.
Par exemple, ça pourrait être ça. Et... Et c'est un bon, c'est une espèce de mythomane aussi, dans le sens où il dit qu'il fait plein de choses pour gagner de l'argent, qu'il gagne de l'argent, etc. Mais que souvent, en fait, la réalité n'est pas exactement à la hauteur de ce qu'il raconte.
D'accord. Il vient un peu chez sa sœur.
Donc, par exemple, il dit qu'il bosse à la SNCF, alors qu'en fait, il essaie de dépouiller les gens dans les trains, quoi.
Voilà. Bosse dans la SNCF, dans un train de la SNCF.
Une façon de présenter les choses.
Ouais.
Et donc là, il arrive dans la communauté Emmaüs de sa sœur avec la bonne idée, enfin ce qu'il croit être la bonne idée, qui est de la chirurgie esthétique low cost. Voilà.
Le Ryanair de la chirurgie esthétique.
C'est ça. Bon,
d'accord.
C'est ça. Il va faire ça en Roumanie, je crois, ou en Bulgarie, peu importe.
Mais pour le coup, c'est pas une mauvaise idée.
Non, mais...
L'exécution sera peut-être pas bonne,
c'est voilà. Ce que tu veux dire. On va dire ça comme ça. Et puis le projet en lui-même est assez spécial parce qu'il lui faut des clients afin de mettre son projet à exécution. Et ses clients, il va les trouver dans la communauté Emmaüs.
Ok, donc des gens qui ont...
Donc il va en gros dire à peu près à tout le monde qu'ils sont moches et qu'il faudrait qu'ils se fassent refaire afin de les emmener... tout frais payé.
J'ai un peu peur parce que ce que tu me racontes là, c'est on dirait une blague sympathique, mais sur papier ça peut tenir 20 minutes, mais est-ce que c'est pas un peu ça part pas un peu en sucette ce film, enfin...
Bah c'est même pas que ça part en sucette, c'est que ça démarre jamais vraiment, c'est ça le problème. Parce que... Enfin, c'est bizarre parce qu'on est clairement dans du Carverne et Delépine typique, classique. C'est...
Pour rappel, c'est eux qui avaient fait le film avec Benoît Poulvord et Dupontel, c'est ça ? Je sais plus le titre.
Le Grand Soir, où ils jouaient des
punks. Oui, des punks, c'est tout à ça. Fait.
Ils ont fait Louise Michel, qui était très très bien. Ils ont fait Mammouth, qui était assez bien aussi. Le dernier, c'était quoi ? Saint-Amour,
oui.
qui était pas mal. Le Grand Soir, c'était un peu décevant. Avec Poulvord, justement. Mais, enfin non, ils ont fait de très bons films. Ce sont de bons metteurs en scène, de bons scénaristes.
Mais c'est des réalisateurs qu'on ne va pas voir pour une histoire qui va... on va dire très développée. On les va les voir surtout pour une ambiance, une atmosphère et des personnages, j'ai l'impression.
C'est ça. On va surtout les voir pour leur univers décalé, leur surréalisme, leur situation rocambolesque, les personnages atypiques aussi. Donc voilà, il y a toutes sortes de choses qui font qu'ils ont acquis un public... fidèle en général et mérité parce que vraiment il propose quelque chose de particulier et d'atypique dans le cinéma français. Seulement ça marche pas forcément à tous les coups et ici ça fonctionne pas vraiment, quoi. C'est dommage parce que c'est juste que la sauce ne prend jamais vraiment. Il y a de bonnes blagues, hein, c'est pas ça, mais au final on se désintéresse assez vite des personnages, de ce qui leur arrive. Et ce qui est particulièrement dommage, parce qu'il y a une confrontation qui est intéressante, comme tu le disais, entre le capitalisme et la pensée de l'abbé Pierre, avec ses communautés Emmaüs. Donc on ne peut pas faire plus opposé que ça. Ouais. Et la rencontre assez intéressante, mais elle fonctionne malheureusement pas très bien.
Et donc c'est ça le problème du film, c'est que ça ne... ça ne prend jamais. Et c'est vrai que quand on voit en tout cas les bandes-annonces, les posters, etc., c'est un peu le même débat qu'on a vu la semaine passée. Hein. Je trouve que forcément, les Agents du Jardin, qui est un des plus grands noms du cinéma français, on va nous faire un peu cette espèce de sauce. Allez, la nouvelle comédie un peu fun et bigarrée avec Jean Dujardin, il va nous lâcher des phrases drôles et il est en peignoir dans la rue et vous allez voir, c'est waouh, c'est barré, c'est génial quoi, tu vois.
Ouais.
Et je pense que c'est mal vendre le film parce que si on est plus dans un Saint-Amour, etc., qui est quand même un film très particulier, c'est pas vraiment lui rendre service.
Ouais, non, c'est vrai, on n'est pas dans la comédie pure, on est plus dans une comédie un peu acide, mais pas pleine d'éclats de rire. Et il y a un fond très, très dramatique aussi. Donc voilà, c'est peut-être pas exactement ce à quoi on veut. Enfin, comme on vend le film, en tout cas.
Ouais. Donc. Et donc, tu disais que ça ne décolle jamais. Du coup, la fin est sans doute décevante aussi Parce que je vois pas comment ça peut se terminer, en fait, un film pareil.
Ah, je n'en dirai pas plus que ça.
À part l'espèce de soit happy end, soit je sais pas quoi, où il va se rendre compte que c'est pas bien ce qu'il fait. Mais voilà, c'est tout assez classique. Somme toute.
Effectivement, il n'y a pas 36 000
manières de terminer ce genre de film. Exactement.
Mais bon, voilà. Un petit peu décevant quand même, ouais, de la part de Kervin Delépine, c'est dommage.
Avec certains points positifs, puisqu'il y a quand même la vision des deux réalisateurs qui est assez respectée dans ce film malgré tout. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme note ?
Bah, une étoile.
Une étoile, oui. Ouais. Ça commence très bien cet épisode aujourd'hui. C'est cher payé. Mais je suis sûr qu'on va se rattraper avec les gros bras de Mark Wahlberg dans un petit instant.
Peut-être.
Entre-temps, on va passer à une petite actu. La première actu de la semaine, et pas des moindres, hein, c'est, on en parlait d'ailleurs la semaine passée, James Bond 25, l'anniversaire de James Bond. Ils ont trouvé un nouveau réalisateur. Ils l'ont sorti un peu derrière les fagots. C'est Kari Yoji, alors excusez-moi si c'est pas bien prononcé, Fukunaga.
Ouais, Kari Fukunaga.
Ouais, qui en fait est le réalisateur derrière notamment True Detective saison 1.
Ouais.
Ou bien le film Beast of No Nation.
C'est ça.
Donc c'est un réalisateur qui a été en un coup acclamé, sorti un peu nulle part comme ça avec cette série où tout le monde était là, c'est formidable, c'est bien réalisé, c'est on dirait un film de 6 heures. Enfin, et pour le coup, c'est vrai que True Detective était une vraie surprise. Je n'ai pas vu les autres films du réalisateur, je ne sais pas du coup ce que ça donne. Mais...
En réalité, il n'en a pas beaucoup, parce que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai un peu peur de ce nouveau choix. C'est que Fukunaga a été attaché à beaucoup de films, mais chaque fois, ça a été avorté.
La sauce ne prend pas, quoi.
En général, pour des différents artistiques.
Oui, bah, c'est bien, ça.
Il devait réaliser ça, par exemple, tu vois.
Ouais.
Le film que Andy Muschietti a finalement réalisé. Je ne sais plus quoi d'autre, mais il a eu... 2-3 films comme ça où il était attaché et qui ne se sont jamais faits. Et donc ici, ils ont viré Danny Boyle, enfin, Danny Boyle est parti, peu importe.
Oui.
Et bah, je me demande si Fukunaga va pas prendre la porte à un moment ou l'autre. Donc bon. Et comme on n'a pas vu grand-chose de lui au final, je peux pas dire que je suis hyper excité par ce choix. En tout cas, je suis bien moins excité par ce choix que par celui de Danny Boyle. Donc voilà, je suis curieux.
Bon, maintenant aussi que Fukunaga peut-être a besoin de redorer son image et de du coup accepter un job en étant un peu planqué pour montrer qu'il peut faire un film. Il a des choses à prouver justement. Si il a démarré sa carrière sur les chapeaux de roue, mais après il a un peu stagné ou il n'a pas fait grand-chose de convaincant, c'est pour lui l'occasion de venir en faisant un film qui va sans doute rapporter près d'un milliard et dire voilà, je suis là et je sais faire du cinéma et engagez-moi pour la suite. Quoi.
Ça peut.
Je pense qu'il y a vraiment un coup.
Il a un peu de pression, hein, mais
un peu.
S'il y arrive, tant mieux.
Donc le tournage démarre en mars 2019.
C'est ça.
Et la sortie est prévue, je pense, janvier 2020, si je ne me trompe pas.
Oui, janvier ou février. Enfin, début février, 2020.
Ils ont légèrement retardé. C'était prévu pour Noël.
Ouais.
Il y a des cas. D'ailleurs, c'était pas. Non, hein. Il n'y a pas Star Wars à ce moment-là.
C'est une bonne question.
Si c'était décembre 2019, il y aurait eu le troisième Star Wars.
Il y aurait eu Star Wars, oui.
Donc ils le décalent aussi, sans doute. Que ça les arrange.
Oui.
Un tout petit peu, quand même, cette histoire de décalage de tournage pour ce film.
Oui. Et il y avait une autre petite news dont on a parlé la semaine dernière, qui était le choix de la France pour les Oscars.
Oui.
Pour les Oscars de... la catégorie du meilleur film en langue étrangère, c'est finalement La Douleur qui a été choisie, qui était un très bon film, mais je suis pas convaincu qu'il ait toutes ses chances. Pour moi, il avait moins de chances déjà que Jusqu'à la garde de Xavier Legrand. Mais bon, néanmoins, voilà, c'est La douleur qui a été choisie, qui est un très beau film. Il a moins bien marché aux États-Unis que... Enfin, il est moins bien coté généralement que Jusqu'à la garde, mais c'est un choix ambitieux. Maintenant, de là à voir s'il sera parmi les cinq nommés, je pense pas.
Quand tu dis ambitieux, est-ce que c'est parce que le film a vraiment quelque chose de plus particulier que Jusqu'à la garde ou pourquoi ce choix, à ton avis ? Est-ce que c'est parce qu'il est plus passe-partout ? Enfin, c'est quoi le...
Pourquoi ce choix ? Ça, c'est une bonne question. Je suis pas dans le comité.
Le public américain, c'est peut-être moins sensible, enfin, plus sensible à ce genre de film-là que Jusqu'à la garde, qui raconte quand même quelque chose de peut-être très, très violent pour les Américains.
Mais justement, la presse américaine était plus enthousiaste par rapport à Jusqu'à la garde qu'à La douleur. Donc, c'est ça qui m'étonne un peu. Mais bon, visiblement, les Français ont envie de proposer quelque chose de plus, je ne vais pas dire traditionnel, mais de moins marquant, d'une certaine façon. En tout cas, de moins choc, parce que Jusqu'à la garde, c'était vraiment pas facile comme film.
Il y a peut-être aussi ce problème de la campagne aux Oscars, c'est pas évident, peut-être que...
Je pense que ça va être encore moins facile avec ça, mais bon.
Oui, mais peut-être que
aussi... Enfin, peut-être plus facile, plus
les
classique.
Les acteurs et les réalisateurs sont peut-être pas disponibles pour faire la campagne, pour Jusqu'à la garde aussi, c'est peut-être ça aussi la question, à mon avis.
Quand tu es nommé aux Oscars, tu fais la campagne. Tu te rends disponible pour faire la campagne aux États-Unis.
Ça se comprend.
Je pense que c'est une fausse excuse.
Un réalisateur américain qui aurait pu devenir un très grand. Je crois qu'on peut le dire ça comme ça. Oui, il aurait pu. Hein, il avait commencé très fort sa carrière aussi avec des trucs très américains, avec des drapeaux et tout, dans Texas, Friday Night Lights, etc., qui était une série que j'avais bouffée étant plus jeune.
C'est vrai.
Et qui a vraiment démarré très fort sa carrière, mais qui, lui, a vécu quelques grosses tuiles. Hein. Il avait fait Battleship. Entre autres,
il a fait Le Royaume avant ça, que j'ai revu il n'y a pas si longtemps.
Ça allait encore, celui-là.
C'était bien, Le Royaume.
C'était pas mal. Hein.
Donc, c'était bien.
Il a bien démarré, puis en un coup, il a fait Battleship et deux, trois autres décisions un peu mauvaises comme ça. Et il s'est retrouvé à réaliser maintenant le film de Peter Berg. Chaque année, il y en a un, ou presque tous les deux ans. C'est souvent la même chose. Des Américains honnêtes et braves qui se retrouvent dans une situation vraiment périlleuse et qui doivent s'en sortir par les muscles de leurs bras et surtout leurs flingues.
Souvent avec des flingues. Pas toujours, souvent.
Et il y a souvent Mark Wahlberg dans l'eau, c'est pas ce qu'il fout là. Et dans ce cas-ci, c'est un peu la même chose.
C'est le quatrième, hein, c'est ça, je pense. Mark Wahlberg et Peter Berg. Il y a eu Mile 22 maintenant, Track à Boston, Deepwater Horizon et Du sang et des larmes.
Tout ça, quoi, tu vois.
Donc, à chaque fois, il a un flingue en main, sauf à part Deepwater Horizon.
Exactement. Et là, c'est l'histoire de James Silva. C'est un agent spécial de l'unité d'élite qui opère en secret dans le monde entier. Donc, c'est des ghosts. Et ils doivent, en fait, escorter de manière un peu clandestine un informeur à l'aéroport. Je crois que c'est en Corée.
Un informeur, tu as dit ?
Un informateur, pardon.
Informateur,
c'est merci. Un informateur jusqu'à l'aéroport. C'est dans quel pays ? Corée ?
Non.
Je crois que c'est en Asie en tout cas, non ?
Oui, ça c'est en Asie. Alors, okay. Où je ne sais plus exactement.
Et bref.
Cela importe.
Oui, je pense pas. jusqu'à l'aéroport, 22 miles plus loin. 22 miles. Je ne sais jamais s'il y a S ou pas quand on dit miles. Mais si c'est 22 miles, je suppose qu'il y a S.
Mais ça dépend dans quel sens tu le dis. Le titre du film est Mile 22.
D'accord.
Comme si c'était le kilomètre 22.
Voilà.
En français, ils ont inversé les deux. Ils ont dit 22 miles.
Ce qui est logique.
Ce qui a plus de sens au vu du film. Mais c'est pas une traduction correcte. Enfin, soit.
En gros, ils ont 22 miles à faire avec cette personne qu'ils doivent escorter, mais je suppose que ce sera 22 miles très long. Très, très, très long.
C'est ça.
Ils vont avoir des gros problèmes.
Des très gros
problèmes. Ça va devoir se flinguer, ils vont devoir traverser en fait, la ville. Ils ont genre 10 minutes avant que l'avion ne décolle. Enfin, soit. En gros, c'est le bordel, vous avez bien compris. Il y a un ultimatum de malade dans ce film. Et. La grosse question que j'ai à te poser, c'est est-ce que le film parvient à rendre cette tension crédible à l'écran ? Est-ce qu'on a ce TikTok dans notre tête quand on voit ce film, Mile 22 ?
Oui.
Ah, c'est déjà bon signe.
Oui, oui. Et même plus encore. Mais je ne peux pas te dire pourquoi, parce qu'en fait, le film est plus complexe que ce qu'il en a l'air.
Oula.
D'un point de vue scénaristique.
Parce que bande-annonce, on dirait Taken.
Oh oui, mais la majorité du film, c'est un truc assez basique, enfin, qui a l'air basique, et c'est très... on essaye d'aller à ce kilomètre 22, et forcément, il y a des embûches, on se fait attaquer, machin, il faut éviter certains quartiers, certains trucs. exactement ce à quoi on s'attend avec ce genre de film. Et voilà, dans la majorité, enfin la majorité du film, c'est ça. Mais scénaristiquement, le film est un peu plus complexe que ça. À tel point d'ailleurs que une suite ne serait pas surprenante. D'ailleurs, je pense qu'il y en a une ou deux qui sont en chantier. Je pense que Peter Berg voyait ça comme une trilogie, mais à confirmer.
Il aurait dû commencer par Mile 21 alors.
Ben oui, mais bon, que veux-tu, c'est comme ça.
Il voulait pas faire 21 Jump Street. Il s'est dit, je vais peut-être pas aller dans ce chemin-là, ça va être compliqué. Non,
mais il a peut-être bien fait d'ailleurs.
Oui.
Mais du coup, voilà, c'est une structure simple, mais qui révèle son lot de surprises vers la fin du film, qui montre que, ah, en fait, c'est un peu plus intelligent que ça en a l'air.
C'est plus intelligent, genre univers étendu, ou c'est plus intelligent, genre. Non. Ils nous vendent pas le truc comme quoi il va y avoir un 2, hein, les gars.
Non. Avec un non, ils le vendent pas comme ça. Okay. Ils le vendent pas comme ça. Je pense qu'ils le vendent juste comme un film d'action de Peter Berg avec Mark Wahlberg et voilà, c'est tout. Mais
toi, tu vois,
il y a des éléments dans le film qui font que bah, il pourrait y avoir une suite. Et je pense vraiment que c'est peut-être même bien qu'il y en ait parce qu'il y a des éléments vraiment très intéressants dans le film qui seraient intéressants de voir développer dans le futur. Après, s'il n'y a pas de suite, personne n'en mourra, je pense. Hein. Parce qu'on est vraiment dans le film d'action du classique.
Bah, si on est là pour parler d'action. Voilà. Est-ce que l'action est convaincante? Est-ce que la scène de baston, est-ce que tu entends les coups de poing,
Mais
ça fracasse?
Déjà, le rôle de l'informateur est joué par Uko Weiss, l'acteur de The Red.
Je me disais bien que j'ai vu quelque part.
L'acteur indonésien de The Red. Donc, il y a quelques scènes où il se bat...
De manière musclée.
De manière musclée.
Exactement. Ça gicle un peu, non? J'ai l'impression qu'il y a du sang dans le film ou bien...
Il y en a un peu, oui.
Oui, mais c'est pas un truc mature à 100%, on n'est pas dans un film...
Non, non. Mais clairement, ceux qui aiment les combats au point, les échanges de tirs, les embuscades et Ronda Rousey, ils seront servis.
D'accord. Il y a Ronda Rousey aussi dans le film?
Il y a Ronda Rousey.
Ah, d'accord. Parce que je sais qu'il y a Lauren Cohen qui joue dans Walking Dead. Enfin, qui joue,
Oui, oui.
Je sais plus s'il est là ou pas.
C'est rien. C'est longtemps que j'ai arrêté.
C'est bon, autant. Tout le casting est mort, je pense. À part le gosse qui est devenu grand avec des boutons. Lauren Cohen qui est là. Et donc, voilà. Donc, c'est vraiment des scènes d'action filmées dans les couloirs, corridors, close quarters, où on se bat avec des bics et... Non, pas avec des bics. On n'est pas jusque-là. Non,
mais il y a un peu de ça.
Il y a un peu de ça.
Il y a John Malkovich aussi, avec une coupe
Oula.
De cheveux assez, assez fabuleuse. Une espèce de brosse comme ça.
Écoute,
sublime.
C'est peut-être une bonne surprise, parce que voilà, le film, je vois qu'il fait 1h35. C'est parfait pour un film d'action qui passe bien comme ça. Ouais, c'est nickel. Donc, t'as passé un bon moment au cinéma.
Ouais, mais c'est bien amusé. C'était... Mais je suis très friand de ce genre de film, je dois bien l'admettre.
Je crois comprendre ça.
Moi, c'est le genre de film, parfois je me dis, tiens, j'ai tel film à regarder dans ma liste, et au final, je me retrouve à regarder un truc que j'ai déjà vu, un truc d'action comme ça. Voilà. C'est classique, classique.
Bah oui.
Que veux-tu?
Qu'est-ce que tu lui donnes alors? Parce que je pense que ça pue le 2 étoiles, ça, non?
Bah ouais, 2 étoiles, c'est bon.
Ça sent le 2 étoiles.
Hein, c'est ça qu'on veut.
Il fera pas de mal.
C'est comme ça qu'on aime le cinéma.
C'est ça, le cinéma popcorn, nos prises de tête. Vous êtes engueulé au travail, vous avez eu un moment difficile avec votre copine ou votre copain. Et ben voilà, vous allez prendre votre coca, taste the feeling, et allez vous mettre tranquille devant Mile 22. Enfin, à la bonne heure.
À la bonne heure.
Je propose qu'avant de plonger dans une autre info, parce qu'on a fait quand même 2 films, on fasse une petite pause FIF. Tu penses pas que c'est le bon moment?
Allons fifer un
coup. Je dis, c'est le moment est venu pour une pause FIF.
Voilà. Allons au FIF.
Allons au FIF. C'est toi qui vas me guider un peu là-dedans, parce que j'ai un mal fou avec ce programme, je n'arrive pas à comprendre. Mais concrètement, c'est assez simple, hein, qu'on soit d'accord.
Oui.
Ça commence vendredi.
Ça commence vendredi avec Nos Batailles.
28 septembre, Nos Batailles, un film avec Romain Duris, de Guillaume Senès.
Enfin, de Guillaume Senès, c'est son deuxième film. On parlera du film un peu plus longuement ultérieurement.
Bah au FIF.
Mais on peut d'ores et déjà vous dire que si vous avez l'occasion d'aller le voir en ouverture du FIF, allez-y, parce que c'est très très bien.
On précise que le FIF est ouvert au public, contrairement à d'autres festivals dont on a déjà parlé dans ce podcast.
Oui, enfin, la majorité des festivals au monde sont ouverts au public. Hein. Je crois que Cannes est le seul qui est vraiment pas pour le public. Mais tous les autres à peu près
Venise aussi ouvert.
Venise, c'est ouvert au public.
On peut aller voir First Man et
tout.
Bien sûr.
Ah,
ouais,
okay. Ouais.
Pas mal.
Donc, voilà. Au FIF, évidemment, vous pouvez aller voir les films. Et il y en a un paquet.
Il y en a pas mal. On va parler de la compétition officielle, on va pas commencer à tout faire parce qu'il y a beaucoup, non. beaucoup. On vous invite par contre à consulter le programme complet sur fif.be. Alors c'est fiff.be, ne vous trompez pas, pour Festival International du Film Francophone. Heureusement, il n'y a pas fiffn.be, ça aurait commencé à être compliqué. Donc,
oui, s'il te plaît.
En compétition officielle, il y a un film qu'on a vu d'ailleurs aussi. D'ailleurs, je pense que c'est samedi. Donc, tu as commencé par vendredi avec Nos Batailles. Samedi, c'est Un Amour Impossible avec Virginie Fira.
Ouais. Qui, vite fait, en fait, raconte la vie des parents de Christine Angot.
Tout à fait.
La chroniqueuse de D'On n'est pas couché, l'émission de Laurent Ruquier.
Chroniqueuse qui est souvent dans l'actualité hein, pour ses débats un peu houleux sur souvent le féminisme, sur.
Sur plein de
sujets, en fait. Elle a une vision sur tout.
Une femme charmante et qui tout le monde rêverait d'être amie, bien évidemment.
Mariée.
Carrément.
Je pense pas, non. non, mais pour des raisons très simples, on dit pas ça pour être méchant quoi que ce soit, mais c'est vrai que quand vous voyez le film Un Amour Impossible, vous comprenez un petit peu comment est-ce qu'on peut façonner quelqu'un avec un esprit parfois si critique et assez dur. Hein. C'est quelqu'un d'assez difficile. Et en voyant le film, on comprend assez vite pourquoi, puisque ses parents oui. ont une histoire... peu conventionnel, voilà. Je dis ça comme ça, je vous laisse la surprise.
Et assez sombre.
Et assez sombre. On va en parler.
Non, c'était
aussi.
Pas Jojo. Alors bon, je crois que là, ceux qui suivent un peu, enfin, qui aiment, c'est les livres de Christine Angot, qui aiment bien la personne, enfin, peu importe, savent déjà de quoi il s'agit exactement. Mais voilà, c'est, pour ceux qui ne savent rien, ne vous attendez pas juste une comédie légère, Un Amour Impossible, ça a l'air joli comme ça. Mais non, c'est pas
oui,
c'est pas Jojo.
Même voilà. Le poster d'ailleurs est sympa, tu vois Virginie Fira qui sourit au oui, soleil, tu
t'attends
à
une comédie romantique sympathique.
Je m'attendais à ça.
Et puis non. Enfin, oh. Voilà. Ne n'en dirons pas plus.
Continuons au programme.
En compétition officielle également, il y a Pupi, le nouveau film de Jeanne Herry qui avait réalisé notamment Elle l'adore, un très chouette film avec Laurent Lafitte et Sandrine Kiberlain. Sandrine Kiberlain jouait une fan d'un chanteur, je crois, d'un auteur, je ne sais plus exactement, qui était joué par Laurent Lafitte. Et du coup, ici, c'est le nouveau film de la réalisatrice, avec Gilles Lelouch.
Gilles Lelouch, rien que ça.
Et Sandrine Kiberlain, toujours, je pense.
Oui, mais elle est là.
On trouve aussi Weldy, le nouveau film de Mohamed Benatia, qui est un réalisateur tunisien, dont le précédent film avait remporté le prix du meilleur acteur à la Berlinale, il y a 2 ou 3 ans.
Rien que ça.
Oui. Réalisateur très sympathique d'ailleurs.
De surcroît.
Ben oui. On trouve aussi des films québécois. On trouve En Liberté de Pierre Salvadori qui était à la quinzaine des réalisateurs à Cannes.
Oui.
Il y a aussi un film suisse. Il y a un film roumain aussi parce que la Roumanie fait partie de la francophonie. Mm-hmm. Donc voilà, il y a un peu de tout. En tout, il y a 9 films en compétition. Mais il n'y a pas que la oui, compétition officielle, il y a aussi une compétition première œuvre de fiction, avec tous des premiers films, forcément, qui est assez alléchante. Il y a aussi pas mal de films en avant-première aussi. Il y a un coup de cœur qui est donné à Lambert Wilson, et donc il y aura des films de Lambert Wilson qui
seront présentés. Une espèce de débat le samedi aussi.
Une masterclass,
oui.
Voilà. Sinon, dans les avant-premières, il y a Le Jeu de Fred Cavaillé, dont on reparlera, que j'ai déjà eu l'occasion c'est de vrai. Voir. Il y a aussi le film de Michel Blanc, Voyez comment on danse, qui est la suite d'Embrasser qui vous voudrez. Il y a Lola et ses frères de Jean-Paul Rouve. Voilà, trois
très attendus, on peut le dire.
Trois films attendus.
De cette
sûr,
fin d'année en France.
Et même 3 bons films.
Cette fin d'année.
Je peux le dire. Et je le dis. Ce sont 3 bons films. Voilà. Il y a plein d'autres choses. Il y a Denis Arcand aussi, qui est de retour, réalisateur québécois. Bref, il y a de tout.
Bah, c'est clairement un des plus gros festivals en Belgique, francophone en tout cas.
En Belgique tout simplement, c'est un des plus gros.
Oui, c'est un des plus gros.
Je dirais que c'est un des trois plus gros.
Oui, il y a Gand, celui-ci et...
Gand, Le Bif et celui-ci.
Et Le Bif, ouais.
Voilà, ce sont les 3 plus gros festivals en Belgique.
Tout à fait. Donc voilà, si vous êtes amoureux du festival, si vous êtes à Namur, en Wallonie... ou vous voulez aller un petit week-end à Namur, comme nous, et ben voilà, n'hésitez pas à consulter donc fif.be, fiff.be.
Toujours une bonne sélection, une chouette ambiance, de chouettes invités. Voilà.
Donc voilà, bonne ambiance, belle ambiance. Ça se passe où en fait ? C'est à la bourse, c'est ça ?
La bourse, quelle bourse? As-tu déjà mis les pieds à Namur?
Non, mais j'ai cru comprendre parce que j'avais vu sur le site un endroit qui s'appelait la bourse. Alors, je ne sais pas si c'est une vraie bourse ou si c'est qu'est de la bourse ou si c'est une rue ou un truc comme ça.
Ah mais oui, non, c'est une rue.
Voilà, oui, c'est ça. Donc, je me disais bien
qu'il n'y a pas de bourse à Namur. Non, alors, ça se passe. Le chapiteau du festival est place d'armes. Les projections ont lieu pour la plupart au Caméo, vu que maintenant l'Eldorado est fermé depuis un peu plus d'un an, enfin peut-être même 2 ans. Je pense qu'il y a aussi des projections au centre culturel, à la Cinépolis aussi, me semble-t-il. Voilà. Et il y a des délocalisations aussi, parfois à Bruxelles, à Liège, il y a quelques films qui
Ouais,
sont
ils font un
projetés
peu
ailleurs. Donc,
des.
si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas aller jusqu'à Namur, n'hésitez pas à aller voir sur leur site où ont lieu
Oui.
les délocalisations.
Faites-vous plaisir, on y sera. On espère que vous y serez aussi.
Oui.
On va passer tout de suite au troisième film de la semaine. On retourne dans le cinéma français. Quand même, hein, un petit peu. Minimum, s'il vous plaît. Après avoir parlé de gros bras, de muscles et de bataille, on parle aussi un peu de bataille ici, mais c'est très différent. C'est Un peuple et son roi. Alors, si vous avez vu l'affiche, la bande-annonce, etc., vous avez l'impression que les Français ont fait leur misérable ou ils ont fait le gros film français de l'année, gros budget, puisqu'il y a un casting XXL, hein, Gaspard Ulliel, Olivier Gourmet, notamment, j'oublie maintenant son nom, alors que je dois le dire, et je vois très bien qui c'est, Papa Maman, Laurent Lafitte.
Laurent Lafitte.
Ouais, voilà, il m'échappait. Puisque c'est l'histoire en fait de la Révolution française, alors je ne sais pas si ça parle de toute la Révolution française, en tout cas ça se concentre sur plusieurs éléments. Notamment le fait que c'est la fin pour Louis XVI qui va signer lui-même la Constitution et donc en signant la Constitution il signe aussi son arrêt de mort et c'est notamment de ça dont le film va parler. Je suppose qu'il y a encore plein de choses dont tu vas nous parler, mais concrètement est-ce que ce gros film français historique fait son job? Est-ce qu'il parvient à intéresser le public à cette histoire qui maintenant date un petit peu puisque c'est quand même 1789, hein, on n'est pas et qui a déjà été raconté 50 000 fois surtout aussi à l'école et sans doute aussi dans pas mal de films.
Oui, alors, je vais pas dire que j'étais déçu par le film, mais il m'a pas emballé
Oui.
autant que je l'aurais voulu. Parce que j'avais beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé, le précédent film du réalisateur Pierre Scheller, qui était L'exercice de l'État, et dans lequel Olivier Gourmet jouait un ministre, je crois que c'était le ministre des Transports, quelque chose comme ça, en France, et dans lequel Michel Blanc jouait son assistant, enfin, ou son chef de cabinet. Et
Conseiller
Michel
Tom, je crois
Blanc
qu'il
avait
s'appelle.
d'ailleurs reçu le, enfin, gagné le César du meilleur acteur dans un second rôle pour ce film-là. Ici, il raconte en fait l'histoire de la fin de la Révolution française, dans le sens où ça démarre après, enfin, pendant la prise de la Bastille. La Bastille est en train d'être démontée, abattue, et va suivre toute une période d'incertitude où le peuple va vouloir acquérir certains droits et il va falloir légiférer à ce sujet-là. Donc il va y avoir la constitution de l'Assemblée nationale, la création de la constitution, etc., etc. Donc il y a plusieurs choses, plusieurs enjeux sociétaux importants qui vont avoir lieu à ce moment-là, et c'est ça que le film raconte. Le problème, c'est que c'est fort long pour ce que ça raconte, et que ça peut parfois être très très répétitif, notamment lors de séquences de vote, où chaque représentant de chaque département va défiler l'un, enfin ils vont défiler les uns après les autres pour dire. Par exemple, on veut que le roi parte en exil ou qu'on tue le roi. Enfin, voilà. Il y a plusieurs enjeux comme ça. Et bon, ça raconte un peu. Enfin, ça tourne un
Pardon.
peu en rond. Ça raconte des choses qu'on connaît tous ou presque, sans forcément les rendre toujours hyper intéressantes. Alors, il y a des séquences qui sont plus intéressantes que d'autres et qui sont plus réussies que d'autres. Mais dans l'ensemble, on se dit, bon, tout ça pour ça, quoi. Ce qui est dommage parce qu'effectivement il y a un gros gros casting, Laurent Lafitte qui incarne Louis XVI, il y a Louis Garrel qui fait Robespierre, il y a Olivier Gourmet, Adèle Haenel, Gaspard Ulliel, Izia Higelin, Noémie Lvovsky qui jouent des gens du peuple, qui jouent une famille qu'on va suivre pendant tout le film. Donc, ils sont tous très bien, comme d'habitude. Mais voilà, il y a... ça manque de... d'un certain dynamisme. Alors que je comprends très bien, je vois très bien où Pierre Scheler a voulu en venir, ce qu'il essaye de faire, ce qu'il essaye de raconter. Mais c'est assez inégal dans la mise en œuvre. Il a réussi à cibler sur des sujets intéressants, mais c'est répétitif et c'est pas toujours très très réussi. Quoi.
Tu penses que c'est où que se situe le problème ? Est-ce que c'est un problème au montage ? Est-ce que c'est un problème déjà même ne fût-ce qu'au scénario et à l'intention ?
Je pense que c'est surtout au niveau du scénario. Pourtant, quand on y réfléchit bien, on voit déjà qu'il essaie de centrer sur certaines choses. Et c'est... effectivement, c'est bien... c'était une bonne idée, c'était sans doute la marche à suivre.
Ouais.
Mais c'était peut-être pas suffisant. Il fallait peut-être ajouter quelque chose, retirer autre chose. Voilà. C'est difficile de cibler un problème exactement, mais on se désintéresse assez vite de ce qui se passe, c'est dommage. Après, ça se laisse suivre, ça reste intéressant, mais ça parle beaucoup aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de séquences qui se déroulent à l'Assemblée nationale, ce genre de choses, où ce sont des discours sur pourquoi il faut adopter telle attitude ou pourquoi adopter telle autre.
Ouais.
Il y a les soutiens du roi, il y a les soutiens du peuple, donc il y a... Robespierre, forcément, donc c'est pas rien. Il y a Danton aussi. Donc ça parle beaucoup. Et puis, comme il y a des parties qui sont plus intéressantes que d'autres, ça crée un certain déséquilibre. Ça qui est assez dommage.
Mais, j'ai envie de dire, en fait, le film fait penser, attention, c'est pas du tout le même sujet, mais fait penser à Lincoln, en fait, hein, de manière générale. Ce genre d'atmosphère-là, très, tu fais des débats, des trucs comme ça, mais là ça prend moins. Quoi.
Sauf que Pierre Scheler n'est pas Spielberg.
Exactement. Donc c'est vraiment, alors tu veux dire, peut-être un. Voilà, il y a un petit souci de mise en scène, il aurait fallu rendre ça plus dynamique d'une certaine manière, ou se concentrer plus sur le personnage de Louis XVI. Comment est-il ce personnage interprété par Laurent Lafitte ?
Mort, à la fin.
Oui, ça je sais.
Il perd la tête.
Mais justement,
petit rappel historique.
C'est peut-être.
Bah, le personnage du roi n'est pas toujours présent, c'est d'ailleurs un des enjeux du film, donc il y a toute une partie où on le voit moins parce qu'il a voulu fuir, donc c'est pas sur le personnage du roi que ça se concentre, c'est plutôt sur la population, sur qui veut s'émanciper, qui veut obtenir ses droits, et c'est un bon choix, mais voilà, ça manque d'un petit quelque chose.
Plus difficile hein, de se concentrer sur plusieurs personnes, etc. Et essayer de construire vraiment une émotion autour d'un groupe d'individus plutôt que de dire tiens, on va partir du roi et voir son déclin à travers ses yeux à lui. Ça aurait pu être plus facile à mettre en scène, je sais pas. C'est toutes des choses à discuter avec lui si on a l'occasion de le voir. qu'est-ce que tu donnerais comme note alors, toi qui étais quand même un peu déçu par ce film ?
Je peux difficilement donner plus qu'une étoile, même oui. Si ça pourrait mériter un peu plus, mais une à deux étoiles, voilà. Mais tout le travail de reconstitution, les décors, etc., tout ça c'est très bien, les acteurs sont bien, mais il manque cette chose.
Le packaging est bon, mais il manque un truc viscéral, il manque la forme, ouais. Il manque le truc qui va te faire soit bien te reculer dans ton siège et écouter toutes les phrases de dialogue.
C'est ça.
Est-ce qu'il n'y a pas un peu trop, j'ai l'impression aussi on fait du dialogue pour faire du dialogue et vas-y que je te fais des belles phrases parce que c'est Robespierre qui parle, mais on n'est pas sûr que ça sert vraiment à grand-chose.
On voit quand même qu'il a été à l'essentiel, mais il y a peut-être un peu de ça, oui.
Ouais, un peu de flashy, j'ai l'impression.
Bon. Donc je vais dire une.
Une étoile. Boum. Voilà, c'est dit, c'est fait. On passe maintenant, non pas au dernier film de la semaine, L'Ombre d'Emily. Vous avez hâte, vous avez tous attendu ce moment-ci du podcast pour écouter la critique de L'Ombre d'Emily, la discussion sur ça. Non, on va d'abord parler de, Star Wars. Pourquoi Star Wars ? Oui, on va mettre ça dans le titre de l'épisode, comme ça vous allez cliquer. Non, Star Wars, très simplement, en fait, c'est parce que le CEO, le big boss de Disney, Bob Iger, est sorti dans la presse récemment pour parler un peu de l'état des choses, hein, parce qu'il y a eu pas mal de plaintes à gauche à droite de la part des fans, de la part même aussi des médias, pour dire que Disney en faisait peut-être un peu trop avec la saga Star Wars. Je rappelle quand même que Solo est sorti 5-6 mois après l'épisode 2, enfin 8, mais 2 de la nouvelle trilogie, donc c'était très très tôt. D'ailleurs, il n'a pas super bien fonctionné. Il n'est quasiment pas rentable d'ailleurs aux États-Unis, mais dans le monde entier, ça a été. Donc voilà, Disney s'est mis un peu en question. Ils ont avoué que le rythme de faire 2 Star Wars par an, qui était quand même l'idée de base, hein, à un moment donné, ou en tout cas d'en faire ne fût-ce qu'un par an, est tout doucement mis de côté pour se concentrer sur la fin maintenant de la trilogie avec J.J. Abrams, qui s'occupe de l'épisode 9. Et il y a 2 autres trilogies en cours de production. Une qui est chapeautée par David Benioff et D.B. Weiss, qui sont les 2 gars showrunner de Game of Thrones, qui arrive à sa fin. Donc, ils vont développer des films, de nouveau une trilogie. Et il y a Rian Johnson, réalisateur du 8, qui a vendu une nouvelle trilogie post-épisode 9 à Disney. Je pense que l'idée de Rian Johnson est de continuer la trilogie actuelle. Mais l'idée de Weiss et Benioff est plutôt de faire une nouvelle trilogie sur sans doute un autre personnage ou autre chose. Donc c'est un peu la question du jour. Ça me fait quand même peur, hein, parce que quand on y pense, ça fait quand même 6 films en production. Peut-être pas tous en même temps, mais quand même.
C'est beaucoup. C'est ambitieux.
Je pense qu'on va pas échapper à un film par an. Disney a beau dire ce qu'ils peuvent dire, je pense qu'on va... On aura toujours ces épisodes de Star Wars à la chaîne. Ça m'étonnerait qu'ils planifient pour 2027, quoi, tu vois.
Bah, 1 tous les 2 ans, ça me semble beaucoup, mais... Enfin, ça me semble long. Mais c'est peut-être mieux. On verra, je sais pas du tout. Moi, je trouve qu'un par an, c'est pas trop.
Bah, je sais pas, en fait. C'est parce que les gens... Il y a tellement une attache émotionnelle autour de Star Wars et un hype marketing immense que c'est, en fait, tellement d'investissement, on va dire, psychologique de la part du spectateur d'aller voir un Star Wars que... Alors d'avoir trop, c'est un peu comme un jeu vidéo. S'il y a un jeu vidéo qui sort tous les ans, ben, tu t'en lasses au bout du 5e. Donc, je pense à Assassin's Creed, qui est une grosse licence de jeu vidéo, on change de sujet, mais qui faisait 1 tous les ans. Et donc les gens étaient très excités, mais bon, à chaque fois, c'est la même recette. Chaque année, on voit les filons. Et donc maintenant, ils ont dit, OK, ils font ça tous les 2 ans et les ventes sont parties en flèche. Parce que du coup, les gens oublient un petit peu.
Bien sûr, il faut se faire désirer.
Voilà, les gens oublient un peu et puis ils disent « Ah oui, c'est vrai, c'est cool, ça sort. » Donc, je pense que c'est ça aussi l'idée de Disney. Une autre nouvelle, par contre, qui ne concerne pas du tout Disney, ça concerne toujours l'univers, par contre, de Tom Clancy. Il faut savoir que maintenant, il y a Amazon qui a sorti Jack Ryan avec, voilà que j'ai oublié aussi son nom, fantastique, Jim de The Office.
John Krasinski.
Krasinski, qui est très bien. J'ai vu les premiers épisodes, je trouve ça très sympa.
J'ai vu la saison entière, elle est plutôt bien.
Tout à fait, elle est plutôt bien. Voilà. Oui, c'est pas le chef-d'œuvre, mais c'est la suite. Tout à fait. Tom Clancy, donc c'était Jack Ryan dans ce cas-ci. Mais en fait, ils vont essayer de faire peut-être une autre série. C'est une série ou c'est
série de films, hein.
Série de films, qu'on ne se trompe pas.
Une franchise.
Sur John Clark, qui est en fait un des personnages de Rainbow Six, si je ne me trompe pas.
C'est ça. En fait, c'est le bras droit de Jack Ryan. Et dans les derniers romans de Tom Clancy, donc je vais dire les 10 derniers, peut-être un peu plus, c'est lui qui prend le dessus. Jack Ryan est plus que... Enfin, il est président des États-Unis, ce genre de choses.
Ah, carrément.
Oui, Jack Ryan devient président des États-Unis.
Gros spoil donc, de la série, merci.
John Clark devient un peu le gars qui dirige cette unité spéciale dans laquelle on retrouve le fils de Jack Ryan, Jack Ryan Jr. Voilà. Moi, je suis très friand de ces bouquins, donc voilà, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Alors, effectivement, John Clark, on le voit entre autres dans Rainbow Six, et c'est Rainbow Six qui sera un des deux films, l'autre étant Sans aucun remords, qui est aussi une série de livres en 2 bouquins, mais alors, je crois que tous les livres de Tom Clancy sont en 2 épisodes en général. Ouais. Le seul truc qui me fait un petit peu peur, c'est que c'est Akiva Goldsman qui produit le film. Alors, tant qu'il ne le scénarise pas, ça me va.
Qu'est-ce qu'il a fait, Akiva Goldsman? J'arrive pas.
Il a écrit pas mal de films de Ron Howard. Il a réalisé Winter's Tale aussi, un truc avec Colin Farrell qui était pas terrible du tout.
Ah oui, je vois.
Il a réalisé 2 films, je crois. Et il a scénarisé pas mal de trucs qui sont rarement des grosses réussites. Et même en tant que producteur, c'est jamais des gros trucs non plus hyper bien. Mm-hmm. Style Transformers 4, hein, qui s'en souvient encore, personne.
Moi.
Moi, pas, j'ai dormi devant. Donc, voilà, Akiva Goldsman, c'est rarement un nom qui enthousiasme les gens.
Les cinéphiles.
Voilà. Et puis, c'est Paramount aussi, c'est pas toujours
Non.
un gage de qualité dans le sens où ils savent pas toujours très bien vendre leurs films.
Non, bah, donc, en fait, apparemment, ouais. J'ai l'impression qu'ils sont très amis avec Michael Bay. Michael Bay est très ami avec Krasinski, puisque c'est lui qui l'a aidé notamment à faire son premier film, A Quiet Place, qui est un film Paramount aussi.
Tout à fait.
Donc voilà, ils sont en train de créer un petit groupe ensemble là, avec tout leur univers et Tom Clancy. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, je pense quand même que la série Jack Ryan est produite par Paramount aussi, j'ai l'impression.
Ça, je ne sais pas. Je sais que c'est Amazon, mais...
Ouais, mais au début, il y a
la production, je ne sais pas du tout.
Ah, je pense. Donc voilà, mais en fait, la vraie news dans ce cas-ci, c'est que c'est Michael B. Jordan qui serait présent. Oui,
parce qu'on ne l'a pas encore dit.
Non, voilà, on attendait. Vous savez, on en parle quasiment toutes les semaines de cet acteur, Michael B. Jordan. C'est un peu un acteur qui a la cote aux États-Unis. Mm-hmm. Alors il faut qu'il fasse attention, il faut qu'il fasse gaffe lui, hein, parce que
si on il fait trop de choses,
un il fait trop de choses et deux
il va faire son Cadmerade qui faisait 10 films par an.
Il va faire son Taylor Kitsch et là
qui se souvient de Taylor Kitsch, hein, qui se souvient,
moi, parce qu'on en a parlé Friday Night Lights, d'ailleurs Michael B. Jordan aussi,
ouais, mais était dans Friday Night Lights au cinéma à part un film de Peter Berg. Mais
c'est normal, il a fait 3 films en un an.
Savages Battleship. Ah, mais 2 films de Peter Berg.
Et John Carter. Mais ça, c'était pas...
Et John Carter. Ah, mais qui se souvient de John Carter? Personne.
Donc, personne. Pour rappel, hein, pour ceux qui ne savent pas qui c'est et qui sont en train de croire qu'on est en train de partir dans une private joke, Taylor Kitsch est un acteur qui jouait dans Friday Night Lights. Très bon personnage, un peu le rôle du mec un peu bad boy alcoolique. Qui a décollé, il a eu 3 films en un an aux États-Unis. Mais 3 films à 200 millions, hein, pas les petits films, genre gros films qui sont sortis en un an, et les 3 ont fait un four total. Il y avait John Carter, L'Homme de Mars, ou je sais pas quoi.
Un des plus gros flops de Disney.
Je crois qu'ils ont dépensé plus de 200 millions, et ce film n'a même pas rapporté 100 millions.
Alors que c'est une œuvre maîtresse de la science-fiction.
Oui.
Enfin, de la littérature.
Et qui avait un potentiel de faire un truc un peu à la Star Wars, mais non.
Bah, c'est le bouquin de John Carter, ouais, a inspiré Star Wars, hein, clairement.
Bah voilà. Il y avait aussi Battleship, hein, ça c'est le nouveau Transformers, c'était un peu ça l'idée, péter la gueule aussi, et je sais plus ce qu'il a fait d'autre, mais concrètement, voilà, ça a vite décollé, c'est vite retombé. Michael B. Jordan est sur toutes les lèvres aux États-Unis parce qu'il fait des bonnes performances jusqu'ici, il joue dans Creed 2 qui sort bientôt, il a joué dans Black Panther, le rôle du méchant, et donc voilà, pour l'instant, il choisit bien, mais c'est vrai qu'il est attaché à plein de projets, donc ça fait un peu peur. D'ailleurs, il était attaché aussi à Keane, le commencement, vu que c'était lui qui était censé jouer dans Keane 2.
Je crois que la semaine dernière, j'ai dit que je ne le dirais pas, mais...
Il produit.
Oui, il produit. Il produit Keane. Et bah, si, je l'ai dit, je crois.
Il est dedans à la fin ?
Il est dedans à un moment.
Ok, d'accord. Voilà. C'est lui clin d'œil de la fin.
Pour montrer la suite possible.
Genre, si vous avez bien aimé, on va mettre plus de budget pour avoir Michael B. Jordan dans le deuxième. Merci beaucoup.
C'est un peu ça.
Ok, soit. Bon, en gros,
donc oui, il est très très présent, Michael B. Jordan, et il faut qu'il fasse attention, comme tu dis, afin d'éviter de faire une Taylor Kitsch.
Ah oui, là.
Parce que ça risque de faire beaucoup de choses, dont pas mal de choses intéressantes. Donc,
donc il va se retrouver obligé de jouer dans True Detective saison 3.
Peut-être.
Comme Taylor Kitsch.
Voilà, en tout cas, donc forcément, Michael B. Jordan en John Clark, pourquoi pas? Je n'ai jamais, j'imaginais pas trop John Clark comme étant un jeune black en lisant les livres, parce que forcément quand tu connais Jack Ryan, ouais, tu vois les acteurs précédents qui l'ont interprété, tu imagines John Clark autrement. Enfin voilà, j'avais déjà vu John Clark au cinéma, je l'ai jamais imaginé comme ça, mais je pense que ça peut être un excellent choix. Ouais. Par contre, je trouve qu'il est peut-être un poil jeune pour interpréter ce genre de personnage, qui est quand même censé être un chef d'une unité d'élite, qui a quand même de l'expérience.
Peut-être qu'ils vont se concentrer sur la jeunesse du personnage, quand il a commencé dans les paracommandos. Enfin, je sais peut-être, pas très bien de peut-être quoi il s'agit. Mais
donc, en tout cas, je suis curieux. Et voilà. Je me dis, pourquoi pas.
Écoutez, ben voilà, pourquoi pas plonger dans cet univers de Tom Clancy avec Michael B. Jordan. On verra, on va vous tenir au courant, comme d'habitude, de la suite des événements. Parlons maintenant du quatrième film de la semaine, un film que tu m'as dit il faut absolument que j'aille le voir avant qu'on enregistre l'émission.
Je t'ai dit ça, moi ?
Non.
Il me semblait bien.
L'ombre d'Emily, un film de Paul Feig. Alors, Paul Feig, il me dit quelque chose, ce gars.
Parce qu'il a fait Spy, il a fait...
Voilà. Plein de comédies avec des filles en général.
Avec Melissa McCarthy, souvent.
C'est ça. des films qui donnent envie.
Oui, oui. Pas il a fait Mes meilleurs amis.
Voilà, oui, c'est ça.
Les flingueuses. Et il a fait ce fabuleux remake. de Ghostbusters, version féminin.
Bah voilà, c'est lui. Je me disais bien que son nom me disait quelque chose. En effet, c'est un réalisateur du coup, qui a fait un gros four hein, avec Ghostbusters, version féminin. Et maintenant, il est reparti. Il a décidé de relancer sa carrière de comédie, on peut dire ça comme ça. Même si ici, c'est plutôt un policier thriller, mais je suppose avec beaucoup d'humour. Où nous avons Anna Kendrick et Blake Lively qui donc sont Stéphanie qui cherche à découvrir la vérité sur la soudaine disparition de sa meilleure amie Emily. C'est tout le synopsis. Il est question de blogueuse, non, je crois.
Il y a un petit truc, c'est ça. En fait, le personnage d'Anna Kendrick joue une vlogueuse, une youtubeuse.
Oh là là.
Où elle raconte, c'est. Elle parle de recettes, de trucs, enfin de tout et n'importe quoi sur sa chaîne YouTube. Mais en fait, elle va commencer à se créer une grosse, grosse audience avec la disparition d'Emily parce que elle va commencer à dire « Coucou les filles, je suis inquiète, ma copine Emily a disparu, donc c'est pour ça que je suis pas très bien, machin et tout. »
Donc en fait, ça va être une enquête via un vlog, quoi.
Pas exactement, mais ça va jouer, ça va jouer. Il va y avoir des gens qui vont réagir par rapport à cette enquête, par rapport aux vidéos. Et puis on va retrouver la fille, et puis machin, tout. Enfin bon, je n'en dis pas plus parce que c'est.
Mais c'est quoi alors? C'est une comédie? C'est un truc.
Alors je vais te le vendre comme un Gone Girl.
Ah, carrément.
Mais pas Gone Girl.
Mais non, mais parce que. Attends, mais non, mais Gone Girl, attends. Gone Girl, pour rappel, c'est quand même un film très très dramatique, très sérieux, oui, très
c'est,
sombre.
C'est assez dramatique ici. Mais il y a aussi un côté comédie, bien sûr.
Ah oui.
Mais c'est plutôt dramatique. Hein. On est moins dans la comédie que Spy ou que Mes meilleurs amis, que Ghostbusters, ce genre de choses. Hein.
Oui, ok.
C'est clairement plus thriller dramatique.
Plus réservé.
C'est ça. D'accord. Mais oui, il y a un petit côté Gone Girl. Quand j'en parle, je dis parfois que c'est un sous-Gone Girl. Mais
à ce point-là.
Mais c'est pas.
Alors, pour moi, même un sous-Gone Girl, c'est déjà un bon film. Hein.
Bah, c'est un très bon film, Gone Girl. Je le cite un peu comme référence, mais. Mais c'est pas hyper bien de le faire parce que oui, les films, enfin voilà,
rêves, là.
L'ombre d'Emily n'est pas Gone Girl non plus. Il essaye pas du tout de faire la même chose, mais il y a clairement ces jeux de. Il y a certaines similitudes au niveau de la manipulation, des apparences qui ne sont parfois pas ce qu'elles sont. Voilà. Et l'enquête est pas trop mal, elle se laisse suivre. Seulement, quand t'as grillé le twist final au moins un bon tiers avant la fin du film, voire un peu avant encore, c'est moins bien.
D'accord. Donc c'est vraiment un film, entre guillemets, d'enquête.
Ouais.
Et qui a cette prétention d'essayer de faire quelque chose de... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Peut-on garder un secret? Quelle est l'histoire de cette disparition?
Histoire
d'amour, ils sont de loyauté, de meurtre, de vengeance, je ne sais pas. Et donc elle va aller avec
son. Il y a un trio amoureux aussi. Enfin, un trio. C'est pas vraiment un trio, mais.
D'accord.
Il y a des gens qui vont se faire entuber. Il y a un peu de tout. Il y a pas mal de choses dans le film. Donc, c'est pas trop mal. On passe un. Ça se laisse suivre. On passe un bon moment. Mais il y a quand même quelques grosses ficelles scénaristiques qui personnellement, m'ont empêché de le.
D'aimer ça.
De l'apprécier.
Mais c'est gros comme une maison que j'aurais pu. C'est ça que tu dis, quoi.
Non, je dis pas que c'est gros comme une maison, mais quand t'as vu pas mal de thrillers, à un moment, il y a certaines astuces scénaristiques que tu connais.
Oui.
Et quand j'ai vu le truc, j'ai fait ah, bon, ok. C'est pas évident, en fait. Le moment où j'ai compris twist par facilité.
La révélation.
C'est pas un pur twist, mais je veux dire twist par facilité. Au moment où je l'ai compris, c'est pas évident. Tu vois, je me suis pas dit « Ah, tout le monde va comprendre à ce moment-là. »
Ok.
Tu vois. Mais
pour ceux qui ont l'habitude d'aller voir des films comme ça...
Pour ceux qui ont vu pas mal de thrillers et ce genre de choses, il y a moyen de comprendre à ce moment-là.
Ouais. Si vous êtes un habitué d'un poireau ou un truc comme ça, c'est mort, quoi. Vous avez compris directement.
Pas à ce point-là. Ouais. Mais oui. Du coup, je crois que... En fait, je suis en train d'essayer de me remémorer le film. Je crois que j'ai compris vraiment à la moitié, voire peut-être avant la moitié.
Ouais, mais non, attends, mais c'est pas pour autant que c'est un mauvais film. Hein.
Non.
Mal 22, par exemple, c'est super méga gap prévisible.
Oui,
je suppose.
Pas tout à fait, parce que je sais que c'est plus complexe que ça en a l'air.
D'accord, mais ça pourrait être un plaisir coupable aussi, en fait, l'ombre d'Emily.
Oui, dans l'ensemble, c'est tout à fait honorable. Ça suit, c'est très bien. Anna Kendrick et Blake Lively sont bien. Elles s'en font parfois un peu de trop, mais le.
Mais du coup, Blake Lively.
C'est absolument pas gênant, parce que tu vois pourquoi ils le font.
Blake Lively, on la voit beaucoup ou pas, en fait? Parce que c'est elle qui a
oui,
disparu.
Oui, on la voit pas mal. Okay. C'est elle qui disparaît, mais on la voit pas mal. Mais voilà, c'est juste qu'il y a quelques ficelles qui peuvent gâcher éventuellement un peu le film. Et puis, de toute façon, même si c'est une enquête sympathique qui suit très bien, ça c'est pas non plus l'enquête du siècle. Hein. C'est pas Mystic River, hein, tu vois.
Non, bien sûr. Il suffit de voir l'affiche, on a compris que c'est film.
Mais c'est pas ce que le film essaye de faire non plus. Donc, ouais. Voilà. Au niveau de ce qu'il essaye de faire, de ses ambitions, bah, il rentre dans son cahier des charges. Et ça plaira à beaucoup de monde. Donc, voilà.
Et donc
mais, je me rends compte que j'en parle avec plus d'enthousiasme maintenant que quand j'ai repensé au film quand j'en suis sorti. Donc là, comme ça, je vais te dire 2 étoiles.
Il a grandi. Mais,
hier, j'aurais pu te dire 1 étoile.
Donc, qu'on résume bien, aujourd'hui, on avait I Feel Good, 1 étoile.
Ouais.
2 étoiles pour Mile 22.
Ouais.
1 étoile pour A Peuple Sans Roi.
Exactement.
2 étoiles pour L'Ombre des Mini.
Mais tout à fait, le compte est bon.
Ici, avant tout le monde, L'Ombre des Mini est meilleur qu'A Peuple Sans Roi.
D'une certaine façon. Alors, on va pas parler de meilleur, pas meilleur.
En tout cas, selon toi, ton avis personnel, c'est ça. Mais non, bon, c'est aussi un film différent public, un différent style. Hein. On n'est pas là pour. On peut pas comparer une pomme et une poire.
Les deux sont absolument pas comparables.
Mais voilà. Pour ce qu'il est censé faire, en tout cas, L'Ombre d'Emily accomplit peut-être plus son cahier des charges qu'Un peuple et son roi, qui se plante un petit peu sur cet aspect. Voilà, il n'arrive pas à nous passionner sur un sujet qui est quand même passionnant. Donc, ça, c'est quand même dommage.
Voilà. Donc.
Voilà. On va maintenant faire un petit tour des films de la semaine avec donc cette semaine au cinéma, ce mercredi, Damascus, un documentaire belge. Tu sais de quoi ça parle un peu? Tu sais pas, non?
Je sais que ça parle de la vie en Syrie. Comme le...
Il y a des chances.
Bah ouais. On m'en a un peu parlé l'autre jour, je ne sais plus qui, ni ce qu'on m'a dit.
Oui, mais... donc c'est pas non, mais c'est concrètement, c'est...
Mais c'est... En gros, je pense que c'est quelqu'un qui a été filmé certaines choses, mais alors je sais pas quel est son sujet exactement, ouais. Mais c'est filmé à l'iPhone parfois, tu vois.
C'est oui, pas oui, une c'est, grosse c'est, équipe... C'est montrer un peu les visages des victimes, voilà. Sans passer par le journalisme ou des trucs comme ça, mais...
Voilà, c'est quelque chose de plus confidentiel d'une certaine façon.
D'accord. Deuxième film cette semaine qu'on n'a pas eu l'occasion de voir malheureusement, mais il paraît que c'est pas si mal. En tout cas, c'est les premiers feedbacks des États-Unis. C'est La prophétie de l'horloge, ou en anglais The House with the Clock in its Walls. Alors, c'est quoi Eli ce
Roth.
Titre
ben alors, déjà, ce qui est étonnant, c'est que Eli Roth fasse un film pour enfants, parce que c'est il est plutôt adepte du cinéma d'horreur. C'est lui qui a fait Cabin Fever, qui a fait Hostel, hein, qui avec a fait Knock Knock avec Keanu Reeves. Il a fait Green Inferno, donc voilà, il fait des trucs très trash, en général. Et là, il nous fait un truc pour enfants avec Cate Blanchett et Jack Black qui ont l'air absolument ridicules. Ça a l'air vraiment pas bien comme film, mais qui sait, effectivement, j'ai eu quelques échos qui étaient surprenants.
Bah oui, donc c'est un film...
Après, je crois quand même pas que ce soit très bien comme film.
Si j'ai bien compris, voilà. C'est l'histoire en fait de deux magiciens, deux contes magiques qui doivent résoudre une énigme. Parce qu'il y a une horloge dans le mur, et quand l'horloge s'arrêtera de sonner, il va se passer quelque chose.
Ouh.
Mais quoi ? Donc il y a un peu de... Il y a un peu de goosebumps, comme on dit. Donc voilà.
Dong.
Oui.
Tout le monde est mort.
Non ? Ok. Tout le monde est mort. Mile 22, on en a parlé. Le film canapé, popcorn, salon. On se met bien avec Mark Wahlberg qui... Voilà, ça fait du bien.
Ouais.
De temps en temps. Rafiki, un film
kényan
pour le coup,
qui a obtenu finalement, j'ai vu ça hier ou aujourd'hui, je ne sais plus, l'autorisation de sortir en salle au Kenya, parce que pour l'instant il ne pouvait pas sortir, mais il doit sortir avec un avertissement, c'est pour toute personne consentante ou je ne sais pas quoi, mais bon, ça parle de, c'est un film féministe kényan.
D'accord.
Donc il ne passe pas très bien là-bas en tout cas.
Oui.
Mais la cour d'appel ou la cour constitutionnelle, peu importe, je ne sais pas qui, a gars, décrété que le film devait sortir.
Bon.
Vu qu'il avait été interdit une première fois, soit.
Un point pour le cinéma.
Et espérons que, enfin en tout cas c'est ce que beaucoup de monde espère, que le film représente le Kenya aux Oscars.
Espérons-le. Un peuple et son roi, donc on en a parlé aussi, un film sur Louis XVI, Révolution française... Crazy Rich Asians, il sort en Belgique, c'est cette semaine. C'était le film dont on vous avait parlé lors du premier épisode de la saison. Gros succès aux États-Unis.
Et entre le moment où on a enregistré, c'était quoi, mardi.
Ouais.
Et aujourd'hui, même pas, enfin il y a 2-3 jours, le Warner a décidé de le sortir en Belgique.
Bah oui.
Et boum, comme ça, c'est déjà cette semaine, donc...
Ils sont très rapides, même vu le succès.
Autant dire que
le bouche à oreille pour l'instant.
Ils ne l'ont pas montré à la presse forcément, vu que c'est un peu tôt, un peu juste.
Tout à fait. Mais bon, donc, gros bouche à oreille, donc du coup, ils le sortent. I Feel Good, avec Jean Jardin et Yolande Moreau. Pas si good que ça. L'ombre d'Emily, ça c'est le film de nouveau, un peu recette classique de film à suspense. Un peu trop prévisible selon Thibaut, mais bon, qui fait le job. On vous conseille aussi, mais il n'y a pas vraiment...
J'ai pas dit que c'était trop prévisible, mais ça peut l'être. Si on est un peu aguerri, voilà.
Et puis, dernier film, c'est un documentaire français, c'est L'Héroïque Land, La Frontière Brûle. Alors là, je ne sais absolument pas de quoi ça parle.
Moi non plus.
Mais le film dure 3h45, si vous avez...
Pas mal.
Un samedi après-midi très pluvieux. Pourquoi pas aller voir ce documentaire. C'est les films à la sortie... Voilà. Pardon, qui sortent cette semaine. Pour rappel, y a toujours La Nonne, Black Klansman, King qui sont tous là. Je vous invite à écouter l'épisode 1 et 2 si vous voulez un peu avoir notre avis sur ces films-là. Pour le reste, on se dit à la semaine prochaine ou en tout cas à ce week-end, peut-être au FIF. On ne sait pas très bien comment ça va s'organiser. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, @cinecastbe. La page Facebook, c'est cinecastbe également. Et Instagram, c'est cinecastbe. On fait dans l'originalité. Suivez-nous là-dessus parce qu'on va vous donner des nouvelles sur qu'est-ce qui se passe au FIF, qu'est-ce que vous pouvez voir à gauche, à droite. Et comment est-ce qu'on va couvrir l'événement? Ou bien on se voit là-bas pour boire un verre. Il n'y a pas de souci aussi.
Ben oui. Tout un programme.
Tout un programme. À très bientôt.
Merci de votre écoute et à bientôt.
Merci, des bisous.
Des bisous. Bye.